Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orech Yamim Tovim et Shanim Naimim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vaigash. Alors, nous avons vu les péripéties de la famille de Yaakov, des enfants de Yaakov. Au départ, le conflit qu'il peut y avoir entre Yosef et ses frères, entre Yosef et les frères, certes, mais en particulier avec Yehuda. C'est Yehuda qui écarte Yosef, qui décide de le vendre. C'est Yehuda qui, à présent, va s'approcher de rejoindre Yosef, qui s'avance vers Yosef pour essayer de l'apaiser. Comme nous l'avons déjà dit, Vaigash indique, c'est un terme qui est employé quand on s'apprête à faire un compromis. Donc il veut apaiser la colère de Yosef et mettre un terme au conflit. Plus tard, il est dit que Yaakov a envoyé Yehuda vers Yosef pour préparer sa venue. Cette union, enfin rétablie, comme nous l'avons indiqué dans les cours précédents, le système, la structure de la famille de Yaakov, d'Israël, Yeshurun, est à présent rétablie. Donc Yaakov peut quitter ce monde en toute quiétude. Mais est-ce que cette réunion, ce rétablissement va être éternel, continu. Alors, dans l'histoire, nous verrons que cela ne se passera pas comme ça. Alors, à la fin du règne de Salomon, et il lui est reproché d'avoir permis aux serviteurs de ses femmes de faire des idoles, de servir leur dieu. Il a réduit les domaines consacrés au peuple qui montait au temple. Et à cause de cela, le prophète lui l'informe que son royaume va être scindé à sa mort. Donc son fils, Rehavam, prend le pouvoir. Et dès qu'il prend le pouvoir, le peuple vient chez lui, lui demande d'alléger les impôts. Parce qu'à l'époque de Salomon, les impôts étaient lourds. Alors il lui demande d'alléger les impôts. Alors il prend conseil auprès des sages de son père, qui lui conseillent exactement d'accéder aux demandes du peuple. Puis il prend conseil avec les plus jeunes, les gens de son âge, qui eux lui disent d'alourdir les impôts, de se laisser apitoyer. Et de cette démarche va la conséquence de cette démarche va être la rébellion du peuple. Et le peuple va se scinder en deux, le royaume, ils vont se révolter, ils vont se rebeller et ne pas accepter l'autorité de Rehavam. Et à ce moment-là, c'est le schisme qui va se produire, deux royaumes vont apparaître, le royaume d'Israël, sous le roi d'Éphraïm, la tribu d'Éphraïm va diriger le peuple, 9 tribus et demie, et Yehuda, Benjamin seront 2 tribus séparées. Donc le conflit, la discorde va se réaliser à nouveau. Et ça va perdurer. Alors, 133 ans avant la destruction du temple et l'exil en Babylonie, Sanhérib, le roi d'Assyrie, va exiler les 10 tribus qui vont disparaître, et on ne sait pas, les 10 tribus d'Éphraïm vont disparaître, et on va attendre le retour. Donc le prophète Ézéchiel, qui prophétise en Babylonie, nous dit comme ça, « Vaïdevar Hachem, et là il est mort. » Donc la parole de Dieu lui est parvenue. Il lui dit, « Toi, Ben Adam, toi, l'homme, « Karlecha et Sehad, prends un bois, un arbre, un bois. « Urtov alav li Yehuda ou l'Ubnei Israël haverav. » Écrit dessus que ce bois-là est destiné à Yehuda et à la maison d'Israël, aux enfants d'Israël, ses compagnons. Et prends un deuxième bois, un deuxième arbre, un deuxième bois, et tu écriras dessus, Ortov alav li Yosef, et Ephraim velchol bet Israël haverav. Donc le deuxième bois, il est pour Yosef, le bois de Ephraim, et à la maison d'Israël, ses compagnons. Après, il lui dit, Vekarav, Vekarav otam, Vekarev otam ehad el ehad, tu rapprocheras l'un de l'autre. Donc, il doit rapprocher les deux bois. C'est-à-dire qu'il attrape chaque bois dans une main et il les rapproche, non pas un vers l'autre, mais les deux. Les deux doivent se rapprocher. Le parcours, le rapprochement se fait des deux côtés. Jusqu'au moment où ils deviennent un dans ta main. Ça veut dire que lorsqu'il va les saisir, ils seront suffisamment proches l'un de l'autre. Les deux bois apparaîtront comme n'étant qu'un seul. Donc c'est comme si qu'ils vont s'emboîter deux bois qui forment un. Mais ça restera toujours deux bois. Ve'ayoula hadim be'adecha. Les deux bois en question, puis le prophète continue sa prophétie jusqu'à indiquer qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va rassembler les peuples, le peuple va les ramener sur leur terre. D'aber aleim ko amar Hashem Elohim ine ani lokeach et bene Israel mi ben agoyim asher al chusham vikibatzti otam misavi veveti otam eladmatam. Je vais rassembler, dit l'Éternel, que je vais rassembler tout le peuple d'Israël et les ramener sur leur terre. Et j'en ferai un seul peuple. Etc. Et après il est dit, Emon, Ve'avdi David, Melech Aleim, Ve'roi Had Yehlekulam. Il y aura un seul roi, un seul berger, ou Mishpata Yehlechou, Ve'chukota Yishimiru, Ve'asu Otam. À ce moment-là, ils se conformeront à la Torah, à mes lois, etc. Donc c'est quelque chose. Une vision prophétique pour la fin des temps. Ve'ayam, à la fin, il est dit, Ve'adou agoyim, ki ani Hashem, kadesh et Israël, yot mikdashi betocham le'olam. Mais à ce moment-là, le temple sera reconstruit, l'union sera parfaite, et les peuples sauront que je réside parmi, que c'est moi, ki ani Hashem, kadesh. C'est moi, Hachem, qui sanctifie Israël, du fait que mon sanctuaire réside en leur sein pour toujours. Donc au milieu du peuple, au milieu de la nation juive, il y a le sanctuaire qui les unit. C'est le sanctuaire qui unit, sanctuaire particulier, qui ne ressemble pas à celui de la fin du premier temple. Mikdashim, Dram, Léolam. C'est pour l'éternité. Donc l'union parfaite. Alors nous revenons aux deux bois. De quel bois? Il est dit un bois, il n'est pas dit un bois, il est dit un arbre. Aetz, ça signifie un bois, mais aussi ça signifie un arbre. De quel arbre s'agit-il? Il y a deux arbres. Il est dit, Ve'ata ben Adam. Ben Adam, le fils de l'homme. De quel homme? De Adam Arishot. Kachalecha etz ehad. Prends un arbre. Donc dans le Gan Eden, Adam Arishot, il y avait devant lui deux arbres. Il y a un arbre qui est qualifié Et Hayim, l'arbre de vie, et un autre arbre, le fameux deuxième arbre, qui est Et Hada'at Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ces deux arbres-là, il faut considérer que, en fait, c'est un seul arbre, tous ces deux arbres-là, ça ne font qu'un. Seulement qu'un, ça dépend à quel niveau on se place. Au niveau le plus haut, alors il est un arbre, l'arbre de vie. Mais plus il descend dans le monde de la matérialité, et plus ça se ramifie en deux branches. en deux facettes, le bien et le mal. Donc Adam Harishon, il devait éliminer le mal. Comment élimine-t-on le mal? En le cernant. Donc s'il avait cerné le mal, il lui dit ne mange pas là, ne mange pas de l'arbre. Il sait pas, parce que c'est mal de manger, c'est pas bon. Alors il sait pas, il n'arrive pas à concevoir cette mitzvah-là, le fait de ne pas manger, donc il en fait l'expérience. Mais en fait, s'il avait défini que le mal est mal, alors le mal, on s'éloigne. Si c'est le mal, on considère que c'est un danger mortel, on s'en éloigne. Donc le mal est éliminé de lui-même. Donc, et si le mal, le mauvais est éliminé de lui-même, il reste que le bien. Et le bien, le tov, c'est haïm, c'est la vie. Mais non, l'homme a fait l'expérience. Donc, le mal a pénétré dans tous les niveaux de la création. Alors, nous disent les chachamim, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie est un arbre d'un niveau élevé. Il est l'arbre est au niveau le plus élevé. Donc, c'est là où Dieu apparaît. Donc, dans les niveaux, les sphères les plus hautes. L'arbre du bien et du mal, c'est attribué au Talmud. Le Talmud est qualifié de tunnel obscur. Bam hashakim ou shivani, le Talmud babli, dont tu m'as installé dans le tunnel obscur, c'est le Talmud babli. Et toute l'idée du Talmud, de l'obscurité qui est mélangée, donc l'obscurité, le mauvais, le bien et le mal sont mélangés, donc tout le travail talmudique consiste à raffiner les idées jusqu'à éliminer ce qui est négatif, ce qui est mauvais, jusqu'à en faire jaillir une halakha claire. La halakha étant la lumière. Donc c'est ça le travail de Etzadahat Tovara. Donc il y a ici deux arbres. L'arbre, nous dit le Hari, l'arbre attribué à Yehuda, c'est l'arbre de la vie. L'arbre attribué à Ephraim, c'est l'arbre du bien et du mal. Alors les deux arbres, ils sont en conflit, ils sont deux arbres distincts entre nos mains. Yehuda et Yosef n'arrivent pas à trouver un compromis. Pourquoi? Parce que Yosef, il est une dimension qui ne correspond pas à Yehuda. Et Yehuda n'arrive pas à accepter la dimension de Yosef. Comment ça se manifeste? Alors on peut qualifier ça de deux visions de la vie. Il y a la prophétie et il y a la halakha. Donc la Torah a été donnée de manière prophétique, dévoilée par Moshe de manière prophétique. Mais après que la Torah a été conclue, la prophétie ne doit plus intervenir dans la fixation de la halakha. La halakha doit être fixée selon ses règles par les hommes. Donc les hommes, ils doivent s'adonner. Si on a une incompréhension ou on ne sait pas quoi faire ou c'est pas précisé, donc il faut travailler le texte, travailler les idées, raffiner les réflexions, de sorte qu'on arrive à que les hommes arrivent à fixer une halakha claire. Donc c'est le travail de Etzadahat Tovara. Ces deux aspects ne doivent pas se connecter, n'ont pas de lien. Et la fameuse polémique au sujet entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, qui au sujet de Tano de Achnaï, le fameux problème du fameux four, où est-ce que le four est impur ou pas. Donc il y avait une discussion et les rabbins étaient contre l'avis de Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Eliezer dit qu'une voix céleste, c'est moi qui ai raison, qu'une voix céleste intervienne. Et une voix céleste est intervenue et a prouvé à plusieurs reprises que, confirmé, l'avis de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yehoshua, il se lève à ce moment-là et dit, la Torah n'est pas dans les cieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par prophétie, une intervention prophétique ne peut pas fixer la halakha. La halakha est fixée selon des règles, des normes humaines. Donc c'est resté comme ça. Donc en fin de compte, Rabbi Eliezer, il a été banni, il a été mis en harem. Maintenant, cette notion-là, est-ce que ces deux concepts, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher? est-ce qu'on peut les conjuguer? Alors, il y a une discussion dans la Gemara. La Gemara rapporte dans Svahim que David Amelech était poursuivi par Shaoul. C'est intéressant que ce soit Shaoul, qui est des enfants de Rachel, Shaoul Ben Kish, qui n'est pas de la tribu de Yehuda. Donc il était poursuivi, il voulait le tuer. Donc David se réfugie dans les hauteurs, à un endroit qui s'appelle Nayot. Alors la Gemara dit, c'est quoi ce Rama? Barama, Rama, c'est le lieu de résidence de Shmuel. Shmuel, il habitait un lieu qui s'appelait Rama. Alors la Gemara demande, qu'est-ce que ça fait cet endroit-là, Rama? Et il y a une ville qui s'appelle Nayot. Aucun rapport. Alors il dit non. Ils sont partis, David est parti rejoindre Shmuel, un avis, pour s'occuper de Nayot, ça veut dire la splendeur du monde. Alors ils se sont occupés à fixer les pourtours du temple. Comment construire le temple? Ils voulaient faire le plan du temple. Le temple lui-même, les dépendances du temple, où placer le misbéar, où placer les misbéarot, où placer la menorah, etc. Les détails du temple. Et à ce sujet, il est dit, ils ont sorti des livres, ils ont étudié. Donc ils sont adonnés à l'étude à travers les Sfarim pour arriver à fixer cela. Ailleurs, il est dit, dans les chroniques, il est dit que, il y a un long discours de David Améler, qui introduit la construction du temple, et il est dit là-bas que David Améler a tout préparé pour Shlomo, pour qu'il construise le temple. Tous les matériaux étaient prêts. Les pierres, les bois, l'or, l'argent, etc. Tout était prêt. Et non seulement ça, mais en plus, il a préparé l'argent, ça veut dire le budget pour réaliser tous les détails des choses, tout ce qu'il fallait créer, jusqu'au moindre objet, les couteaux et les récipients pour le service, etc. Et aussi, il a fait le plan de toutes les choses. Chaque chose, le plan global de la bâtisse, le plan détaillé de chaque dépendance, les objets, etc. Tous les plans étaient déjà préparés. Donc, Shlomo HaMelech n'avait qu'à suivre les plans. Et tous ces plans-là et tout ça a été fait par inspiration divine, comme ça dit David. Donc, a priori, c'est le verset là-bas, dans les chroniques, contredit ce que dit l'Agma, qui se sont adonnés à l'étude. En fait, il y a ici deux niveaux qui sont, deux dimensions qui sont indiquées. Il y a l'indication, la dimension prophétique et la dimension halachique. Alors, dans le passage, il est dit, Kimitzion tetzetora, au sujet de Jérusalem, il est dit, Kimitzion tetzetora, Udvar Hashem Yerushalayim. Alors la Gemara elle demande le mot Tzion à quoi correspond-il et le mot Yerushalayim à quoi correspond-il? Alors la Gemara elle dit qu'en général le mot Tzion il vient du mot Tzionim. Tzionim ça veut dire des indications, c'est les panneaux indicateurs. Il dit place des panneaux indicateurs pour que l'on puisse savoir dans quelle direction aller. Donc le mot Tzion c'est Jérusalem d'en bas, qui indique où se trouve Jérusalem d'en haut. C'est ça le mot Tzion. Tzion et Jérusalem sont le même lieu. Seulement, un se trouve sur terre et l'autre se trouve dans les cieux. Et à ce sujet, il est dit, le fameux passage qui se trouve dans toutes les synagogues sur le Echal est marqué, Kim et Tzion, etc. La Torah sort, jaillit de Tzion, et la parole de Dieu de Jérusalem. Alors, y a-t-il la Torah et la parole de Dieu? N'est-ce pas la même chose? A priori, c'est la même chose. Alors, pourquoi la Torah sort de Tzion et la parole de Dieu de Jérusalem? On dirait qu'il y a deux choses ici. Alors, la Torah, c'est l'étude. La halakha fixée par les Chachamim. Maintenant, les Chachamim fixent la halakha. Qui me dit que c'est juste? Peut-être se trompe-t-il. Peut-être c'est erroné. Et ça peut avoir des implications terribles. Alors on a besoin d'une confirmation des cieux. Donc il y a ici deux notions dans ce pasouk. Le pasouk fait référence à deux niveaux. Il y a le niveau du travail personnel des individus qui vont fixer la halakha selon les règles de la halakha, les règles établies de la transmission de la Torah. Ils vont se casser la tête pour arriver à fixer une halakha. C'est ça, ki mitzion tetzé Torah. La Torah, c'est la hora'a. C'est la règle qui est indiquée, qui est transmise par les maîtres. Mais cette règle-là doit être confirmée par les cieux. Udvar Hashem Yerushalayim. La parole de Dieu doit confirmer, puisque Tzion en bas indique où se trouve Jérusalem d'en haut. Donc la halakha d'en bas, que les rabbins fixent, elle indique que cela, telle qu'elle est fixée, doit indiquer la parole de Dieu dans les cieux. Donc il y a une confirmation, la prophétie vient confirmer le travail des chachamim quand ils fixent la halakha. Donc c'est ce qui a marqué ici. David et Shmuel et le Navi Shmuel se sont adonnés à l'étude pour fixer les plans, pour déterminer le temple, les différentes règles du temple, où le placer, etc. Et cela a été confirmé par l'inspiration divine, par la prophétie. Et c'est à cela que fait référence, en fait, les deux bois. Le bois de Yehuda correspond Etz Haim à l'arbre de vie. C'est la parole directe d'Akadosh Baruch Hu. C'est le concept de la prophétie. Akadosh Baruch Hu initie l'homme à sa parole et se révèle à lui. Et il est inspiré. L'homme est inspiré. Donc il dit c'est ça la halakha. Mais l'autre bois, c'est le bois du travail. Éliminer le mal pour faire jaillir la lumière. Donc les deux doivent se réunir. Dans la réunion qui est marquée ici, Ve'ayula hadim be'adecha, ils vont s'unir dans ta main. En vérité, c'est un bois, mais il y a deux bois dans la main. C'est-à-dire que les deux bois vont s'emboîter, ils ne vont plus être en conflit. Pas comme disent les maîtres que depuis que la halakha elle a été transmise aux hommes, la prophétie ne peut plus intervenir. Viendra un jour où, comme à l'instar de David et de Shmuel, que leur travail de halakha, leur étude a été confirmée par inspiration prophétique, de même il en va à la fin des temps où la halakha sera confirmée par l'inspiration prophétique. Et c'est ce bois-là qui va déterminer qui sera ce bois-là uni, qui sera le bois qui le sceptre de David. Parce que David n'a pas d'existence séparée de Ephraim. Il a besoin de Shaoul. David a besoin de Shaoul pour régner. Et c'est ça l'espérance, l'espoir qui est indiqué ici. Pour la fin, et c'est pour ça que la prophétie conclut par la construction du temple, par l'unité du temple. Alors comment ça se passe? Ça se passe, il est dit, nous avons lu déjà le verset, Ani Hashem, il est dit, d'aber alehem, il leur dit, dis-leur, comme Hashem Elohim, Ini ani loker et ben Israël mi ben agoyim. Voilà, j'arracherai, je prendrai les enfants d'Israël de parmi les nations. De quelles nations? Des multitudes de nations. Asher al-Khusham, là où ils se sont éparpillés. Les kibatstim, je les rassemblerai, je les réunirai. Les vetiotam et l'admatam, je les ramènerai, replacerai dans leur terre. C'est le kibbutz galuyot. Maintenant, ces gens qui arrivent, ils arrivent d'une multitude de lieux. Chacun, il vient avec sa langue, avec sa culture, avec ses idées, avec ses habitudes, avec ses concepts, etc. Tout ça se rassemble dans un gros creuset. Et cette diversité, en fait, multiple, qui fait la confrontation, qui crée une confrontation, qui va créer l'union, la richesse. Quand tout le monde pense la même chose, on tombe dans une pauvreté intellectuelle. Mais quand il y a une confrontation, on confronte les idées, Les gens sont différents, ils pensent de manière différente, ils étudient de manière différente, ils sont différents dans leurs us et coutumes. Alors ça, l'opposition crée la richesse intellectuelle. Et c'est comme ça que se développe le savoir. Donc c'est ça ce qui est marqué ici. Marqué ici que cette réunion des gens des quatre coins de la terre va produire la confrontation n'est pas juste une confrontation pour détruire l'autre, la confrontation permet de faire jaillir la lumière. Bien dit David alayhim ro'e ahad, et David mon serviteur, il sera le seul berger. Yelikulam, mon mishpata yelikou, ils vont suivre mes préceptes, ils vont accomplir et pratiquer mes lois. Donc c'est veyashvu al haaretz asher natati le'avdi Yaakov, et ils s'installeront sur la terre que j'ai donnée à Yaakov, là où vos ancêtres sont installés. Alors ils s'y installeront, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, à jamais. Et David les guide. Et David, c'est lui le seul roi, l'Éolam. Donc ça veut dire que c'est l'union, elle est parfaite. Bien que il y a deux bâtons, le bâton de la prophétie et le bâton de la halakha, le bâton de Etz Hayim et le bâton de Etz Hadaat Tova, le bâton de Yehuda et le bâton de Ephraim. Ces deux bâtons-là doivent s'imbriquer et se souder pour se transformer, non pas que l'un disparaisse, mais que les deux forment une seule nation. C'est ça l'idée qui est mentionnée ici. C'est ça l'idée d'espoir. C'est ça l'idée d'espérance. C'est ça que Vaïgash et la Yehuda. Yehuda s'approche, se met en avant et trouve le compromis. Le compromis, c'est que chacun fasse un effort. Chacun accepte l'autre dans sa différence. Et si chacun accepte l'autre dans sa différence, à ce moment-là, le bâton se soude. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.